Abbé François Biche, bonjour.
Bonjour Violaine.
Vous êtes vicaire général du diocèse de Bayonne et vous venez nous parler du Dimanche de la Parole, puisque ce dimanche 24 janvier, le pape François a proclamé ce Dimanche de la Parole de Dieu. Alors, quel est le but de cette journée de la parole?
Alors, le but de cette journée de la parole, c'est de nous faire prendre conscience du caractère absolument essentiel des Écritures dans la vie de la foi d'un chrétien. C'est-à-dire que lorsque nous nous trouvons en présence de la Sainte Bible, nous ne nous trouvons pas simplement en présence d'un livre qui nous parlerait de Dieu ou qui nous raconterait de manière romancée ou autre l'histoire du salut, mais nous sommes en présence de la parole de Dieu, avec cette idée dans la foi excessivement importante aussi d'auteur inspiré du Saint-Esprit, ce qui signifie que tout ce qui est contenu dans la Bible est parole vivante de Dieu et elle s'adresse résolument à l'âme de la personne humaine. Cette parole résonne dans la personne humaine et elle est source, évidemment, de rencontre avec Dieu et de conversion, c'est-à-dire de tout ce qui nous est nécessaire pour découvrir justement le chemin de l'évangile ouvert par Jésus lui-même.
C'est très fort, c'est vraiment un côté
oui.
Divin de cette parole qui ne se lit pas à la légère.
Absolument. Et c'est pour ce faire d'ailleurs que la partie de la messe qui est consacrée à la parole de Dieu, à savoir la proclamation de quatre lectures, puisqu'il y a une lecture de l'Ancien Testament, une lecture d'un psaume qui fait partie aussi de l'Ancien Testament, qui normalement devrait être chanté, une lecture tirée du Nouveau Testament, une lettre apostolique en général, ou les Actes des Apôtres, ou la lettre aux Hébreux, et puis une péricope de l'Évangile, d'un des quatre évangélistes, selon les années liturgiques ou selon la fête en question. Et puis, à ne pas oublier, l'homélie qui fait partie de la liturgie de la parole et qui nous rappelle de combien le prêtre doit être là justement pour faire résonner cette parole de Dieu qui a été proclamée en nos cœurs, en nos âmes. Et l'homélie devant être justement le lieu ecclésial par excellence, une parole qui n'a rien à voir avec l'opinion du prêtre qu'il partagerait avec son assemblée, mais le prêtre, dans le sacerdoce dont il a été investi par la médiation de l'Église, eh bien, est là pour faire résonner cette parole de Dieu, la rendre audible, compréhensible, de telle façon qu'elle soit dans sa pleine vérité reçue pour être, ce que j'exprimais tout à l'heure, le lieu, la source d'une conversion intérieure permettant de vivre toujours davantage en chrétien.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre justement l'évangile qui est proclamé par le prêtre et les premières, deuxièmes lectures qui peuvent être lues par un lecteur?
Alors, il n'y a pas de différence au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de la parole de Dieu, puisque de toute façon, évidemment, que ce soit les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, il s'agit bien de la parole de Dieu, avec évidemment l'idée aussi de comprendre qu'il y a un accomplissement de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, puisque tout ce qui était dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, puisque c'est de cela dont il s'agit, correspond à justement une préparation de l'ordre de la révélation pour accueillir le Messie qui serait en Jésus la parole de Dieu faite chair, que saint Jean salue dans son évangile comme étant le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Et au travers de cette parole vivante qu'est le Christ, nous découvrons justement la nouveauté, l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et si le prêtre ou le diacre proclame l'évangile, c'est parce que nous avons là la bonne nouvelle par excellence, la bonne nouvelle de la rédemption par l'unique sauveur, le Messie, le Fils de Dieu que le Père nous envoie dans l'Esprit. Et évidemment que c'est à partir de ce Nouveau Testament que tout doit être lu dans les Saintes Écritures, puisque le Nouveau Testament, et particulièrement les Évangiles, représentent finalement la clé de lecture de l'ensemble des textes textes bibliques, des saintes écritures.
Alors, vous l'avez dit, le Christ, en fait, c'est le Verbe. Enfin, le Fils de Dieu, c'est le Verbe. Quand on dit le Verbe s'est fait chair, c'est justement le Verbe, c'est ça? C'est la parole de Dieu qui s'est fait chair?
C'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, la réalité de la parole de Dieu, elle est contenue dès l'abord, puisque dans le texte de la Genèse, déjà, nous avons cette idée de la deuxième personne de la Trinité, la parole qui crée. C'est-à-dire, nous avons plusieurs fois dans le récit de la création, et Dieu dit. Et ce verbe « dire » fait allusion justement à celui qui est la parole, et par la parole, la création va avoir lieu et prendra vie par la troisième personne de la Trinité, qu'est l'Esprit. Et ensuite, cette parole de Dieu, créatrice, elle va devenir verbe de Dieu, sauveur, Messie, et c'est donc une parole qui sauve, une parole qui libère du péché, parce que cette parole sera crucifiée, puis évidemment au matin de Pâques, Jésus, le Messie ressuscité, sera le Rédempteur, la porte du paradis ouverte, quoi. Voilà.
D'où l'importance de lire la Bible. Alors, comment est-ce qu'on peut, de façon pratique, la lire et que justement on se laisse imprégner de cette parole divine? Alors, il y a la Lectio Divina, je sais, il y a différentes manières de lire la Bible.
Oui, absolument. Alors, surtout, ce qui importe, c'est que, quel que soit le choix dans la manière de lire la Bible, ce qui importe, c'est avant toute lecture de la Bible, de s'imprégner du fait que je ne lis pas un livre comme un autre, et que je me trouve bien en présence de Dieu qui veut me dire quelque chose au travers de cette parole vivante. Et il y a d'ailleurs de très beaux éléments qui sont énoncés dans le Concile de Vatican II, dans la Constitution dogmatique Dei Verbo, à ce propos, puisque s'il s'agit de la parole de Dieu, et l'on voit comment, justement, au travers de cette parole, plus j'en prends conscience que Dieu a quelque chose à me dire, plus je considère ma lecture biblique comme, justement, le lieu d'une rencontre avec le Verbe de Dieu, et donc le lieu qui me permettra de discerner, de voir, de comprendre où se trouve la volonté de Dieu, comment je peux y souscrire, comment je peux l'accueillir et en vivre. Donc, quelle que soit la forme de fréquentation de l'Écriture, ce qui importe avant toute chose, c'est de se mettre dans les dispositions de cœur et d'esprit de celle ou de celui qui veut entrer en dialogue avec Dieu, donc qui lit, et qui laisse Dieu lui parler au travers de ses paroles vivantes et efficaces.
Donc, voilà. On n'est pas obligé de tout comprendre, en fait, c'est plus se laisser aller au dialogue avec Dieu.
Voilà. C'est-à-dire que, d'abord, il faut penser qu'on ne peut pas tout comprendre d'un coup. D'ailleurs, jusque au théologien le plus averti, ou le moine ou la moniale les plus anciens dans leur consécration, le chrétien qui vit cela expliquera toujours que, à quelque époque de la vie qu'il en soit, il ou elle découvrira quelque chose dans la parole de Dieu, pourtant lu des dizaines et des dizaines de fois, qui tout d'un coup prend une résonance particulière et devient le lieu d'une conversion ou bien d'une découverte telle que cela engendre des choix différents dans l'existence. Ça veut dire que on n'a pas à chercher simplement une forme de compréhension au premier degré, mais on a à se laisser pas à pas, au fur et à mesure qu'on lit des dizaines de fois certains passages, on a à laisser le Seigneur nous dire telle ou telle chose à tel ou tel moment, encore une fois, une chose sur laquelle on serait passé des dizaines et des dizaines de fois sans y prêter plus attention que ça, et puis qui tout à coup se révèle comme vraiment le lieu d'une découverte profonde et qui va transformer la vie chrétienne, quoi, de celui qui lit.
Une dernière question, Abbé François Biche, puisqu'on est dans la semaine de prière de l'unité des chrétiens. On dit souvent que les protestants attachent plus d'importance que nous à la parole, à la Bible. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon d'appréhender la Bible entre catholiques et protestants?
Alors, non, puisque eux aussi croient évidemment que c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que pendant des siècles, finalement, on a pensé que les protestants avaient une maîtrise plus grande de la parole de Dieu, c'est que l'Eucharistie, au sens de sacrement de la présence réelle et du sacrifice du Christ rendu présent sur l'autel, n'existant pas au sens strict du terme, cela veut dire que toute leur liturgie est axée sur la parole de Dieu. Et effectivement, dans la vie du chrétien protestant, la Bible tient une place prépondérante que nous avions un peu perdue, il faut le reconnaître, chez les catholiques. Mmh. Et c'est vrai que depuis maintenant des années et des années, l'on revient justement au fait de cette grande complémentarité qui existe entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. L'un l'autre s'appelant, évidemment, est nécessaire, et l'un et l'autre, pour grandir dans la foi et vivre sa foi, quoi.
Ce qu'on va vivre donc ce dimanche 24 janvier, puisqu'on aura la liturgie de la parole et puis l'Eucharistie.
Voilà.
En ce dimanche 24 janvier.
Comme dans toute messe, nous avons ces deux piliers fondamentaux que sont effectivement la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, de fait.
Merci beaucoup, Abbé François Biche, pour toutes ces précisions et puis bon dimanche de la parole.
Merci beaucoup.